Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui, on est deux à détruire. Alors vous connaissez l'argument, c'est de sa faute. Là c'est de sa faute, hein, c'est de sa faute. Hein, ça fait 10 ans que j'en peux plus. D'accord? Ah bah oui, non, mais ouais, regardez comment il ou elle me parle, regardez comment il ou elle se comporte, regardez comment ses parents me considèrent ou au contraire me déconsidèrent, regardez un petit peu comment elle a réussi à réussi à dresser les enfants contre moi, regardez comment il ou elle, aujourd'hui, comment il est il ou elle têtu, il est entêté, il refuse de céder, il veut jamais faire le shalom. C'est de sa faute! C'est de sa faute! D'accord? Alors, tout au plus, on est prêt à faire une petite concession momentanée. Bon, c'est vrai, j'ai ma part de responsabilité. Je ne veux pas le nier, j'ai ma part de responsabilité, d'accord? Alors, il faut savoir, de la manière qu'on est deux à construire, on est aussi deux à détruire. Maintenant, je vais vous expliquer comment on est deux à détruire. C'est très simple. Il y a des conflits dans lesquels, dans toute objectivité, il y a une personne ici qui est, entre guillemets, responsable. C'est la personne qui crie, qui hurle, qui est intransigeante, qui ne veut pas faire d'efforts. OK. Bon, non, on va dire que cette personne, maintenant, elle a 90% de responsabilité. Mais il reste 10% chez l'autre. Pourquoi? Parce que, très souvent, lorsqu'on rentre en conflit, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va faire monter le ton. Et en fait, si on n'est pas responsable du problème lui-même, il est clairement posé chez l'autre, on est responsable tous les deux de la tension générée par le problème. Et la tension générée par le problème, elle génère toujours, en quelque sorte, un développement du problème. Et très souvent, quand les gens débarquent chez le thérapeute du couple, ils disent, vous savez, ça fait des années qu'on se dispute, on n'arrive à rien, on ne se parle plus, un peu comme les Yosef et ses frères, Velo Yachloul, les Daberito Beshalom, ils ne pouvaient plus parler avec lui. C'est terminé, ils sont incapables d'échanger, ils sont arrivés à un point où ils n'arrivaient plus à échanger. Alors le couple, c'est la même chose. On est à un point où on n'arrive plus à échanger. Alors, il faut savoir une chose, que la première question qu'on doit se poser dans ce type de situation, c'est quelle est ma part de responsabilité dans la tension? Le problème, ok. C'est clair, dans les phases de lucidité, l'autre il a reconnu qu'il est trop violent, il ou elle a reconnu qu'il est trop impulsif, on est clair. Mais la tension c'est une autre affaire. La tension, on est deux à la gérer. La manière dont le problème va perdurer, le fait de revenir après à la charge, ça on est deux. Peut-être même parfois fuyant. Aller se mettre dans une autre pièce, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Peut-être que parfois il faut rester là, il faut affronter. Peut-être que parfois, il faut attendre 2-3 jours avant de reparler du problème. Mais la tension est telle qu'elle est générée, est telle qu'elle est véhiculée par le problème, ça en est deux à l'amener. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme bonne question quand on est dans des phases conflictuelles et que la tension monte? La première question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre à faire durer ce problème, à faire durer cette tension? Là, maintenant, je suis dans une phase de conflit aigu. De toute façon, je n'arrive à rien. De toute façon, je ne suis pas compris, comprise. De toute façon, je ne suis pas pris en compte. Je n'existe pas. L'autre, il a envie de se défouler, je n'y arrive pas. Alors, dans ces phases de conflit, il faut toujours se demander, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? J'ai peut-être intérêt maintenant, pour gagner de la sérénité, d'abord à m'éloigner un petit peu. Pour gagner de la sérénité, j'ai peut-être intérêt à écrire à l'autre un petit mot, pour lui dire, regarde, voilà. Ça va pas. Alors, il y a beaucoup de gens chez lesquels ça n'existe pas à communiquer. Hein. Il y a beaucoup de gens chez lesquels, chez papa et maman, ça communiquait pas du tout. Les parents avec les enfants, ça communiquait pas. Les enfants entre eux, ça communiquait pas. C'est très difficile de parler. D'accord? C'est très difficile. Alors, dans ce cas-là, le mieux, c'est d'enregistrer un message. Un message avec une voix douce, agréable. Et d'expliquer que, là, maintenant, on est dans une phase de conflit un petit peu aigu, on n'arrivera à rien si on continue comme ça. Cette mécanique dans laquelle on se trouve coincé, c'est la mécanique du casse. C'est la mécanique de la colère. Il faut savoir que la définition de la colère, c'est que c'est fondamentalement une inadaptation totale à la réalité qui m'est proposée. Et lorsqu'un individu rentre dans une phase de conflit aigu, et donc dans une phase de colère, il rentre toujours dans une phase de rejet. Maintenant, est-ce qu'il est dans une phase de rejet parce que c'est quelqu'un qui jette et qui rejette? Ou alors il rentre dans le rejet parce que il s'est forgé une idée dans laquelle cette réalité, elle est inacceptable? Mais en tout cas, la personne que j'ai en face de moi qui est en colère, c'est une personne qui ne peut pas accepter la réalité telle qu'elle est là maintenant. Et c'est pour ça que nos sages disent « Elle me fasse madame, bechat kaaso ». On ne peut pas essayer d'apaiser quelqu'un qui est dans une phase de colère. Dans les phases de conflit aigu, dans les phases de colère, le mieux, c'est de comprendre d'abord que l'argumentaire ne sert à rien. Alors, on peut reculer un petit peu, peut attendre 12h, 24h, ensuite après on peut enregistrer un message, on peut écrire un mot, on peut proposer à l'individu de réfléchir. Avant, pour parler, il fallait venir devant la personne, ça l'excitait beaucoup plus. Aujourd'hui, on peut envoyer un message vocal en WhatsApp, dans lequel on dit, avec des paroles apaisantes, avec des mots apaisants, avec un ton apaisant, des choses qui sont nécessaires à apaiser un petit peu la tension. On peut aussi, 12h, 24h plus tard, envoyer un petit mot, laisser un petit mot sur la table, et expliquer à l'autre que, en fait, on lui en veut pas, qu'on n'est tout à fait pas à s'entendre avec lui, et qu'on veut pouvoir renouer et discuter calmement. D'accord? Donc, ce qu'on peut dire, par rapport à ce fait-là de la colère, c'est que, effectivement, dans certains couples, il y a un problème. Chez l'un des deux, on est clair. Mais la tension, on est deux à la gérer. Effectivement. Et donc, de ce point de vue-là, on est deux à détruire ou on est deux à construire. C'est-à-dire que si je décide maintenant d'apaiser les choses et de m'exprimer plus calmement et de permettre à l'autre de revenir vers moi, alors à ce moment-là, je contribue. Mais si je fais monter la tension, si je veux crier plus fort, si je veux avoir raison, si je veux absolument prouver à l'autre qu'il est destructeur, destructrice, alors effectivement, à ce moment-là, ben, j'accélère la destruction de mon couple et j'accélère la destruction donc de la relation. Haine me fascine, Adam, chat, casse. On peut pas consoler, apaiser quelqu'un quand il est en colère. On prend un petit peu de recul et on parle avec une voix apaisante, un petit message apaisant, avec des mots apaisants et on renoue le contact. Et c'est ainsi qu'au lieu d'être deux à détruire, on devient deux à reconstruire. À bientôt.